Allora, parleremo di che cosa hanno detto i principali sociologi, come i principali sociologi hanno spiegato, dicono, com'è il mondo moderno, quel che noi, il mondo in cui viviamo, cosa ha di diverso del passato. E io ne cito tre soltanto, perché poi voglio essere semplice. E non ha molta importanza il nome, lo dico lo stesso il nome, perché uno è Lush, un americano, che ha scritto un libro che si chiama La cultura del narcisismo. Narcisismo vuol dire l'interesse per se stessi, l'egoismo, il mettersi in scena, la vanità, occupa, dice, la gente si occupa oggi non degli altri, ma di se stessa, del proprio star bene, del proprio corpo. Sono tutti in palestra che fanno, no, ginnastica. Il nutrirsi bene, il nutrirsi il biologico, la grande cura per sé e per il proprio corpo, e fondamentalmente, no, il desiderio di essere unici. Ciascuno parla, ciascuno vuole andare in televisione, ciascuno vuole diventare il numero uno, questo, qualsiasi persona, questo è quello che dice. E allora, guardate che è una cosa vera, è una caratteristica in cui c'è nel mondo moderno, è una proprietà del mondo moderno. Una seconda proprietà del mondo moderno, che caratterizza il mondo moderno, l'ha descritta un sociologo che si chiama Bauman, e lui ha indovinato anche la parola, l'espressione con cui descriverla. Lui dice che noi viviamo in una società liquida. Liquida. E cosa vuol dire una società liquida? Vuol dire una società in cui non ci sono più dei legami forti.
Don't bury me, don't lay me down. Don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under. Every time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Still breathing through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing, I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live.
Faceva il contadino, l'altro faceva l'insegnante, era contento di fare l'insegnante nella sua classe, il terzo faceva il manager, l'altro scriveva un libro. Beh, aveva un suo orizzonte, non aveva come orizzonte il mondo, no? Tutti come se fossero Giulio Cesare, come se fossero Cleopatra, come se fossero Matari, come se fossero Marilyn Monroe.
Chasing you, but you don't look back. Words I threw that I can't take back. Reaching now, but I can't hold on to you. Don't bury me. Don't let.
14. En général, celui qui tombe amoureux ignore la jalousie. Quand ce sentiment apparaît, que signifie-t-il alors ? Amoureux, nous découvrons un être plus important que n'importe quel autre. Nous découvrons que nous l'aimons, que nous le voulons dans son individualité, avec toutes les particularités de son être. Savoir notre amour partagé nous fait percevoir que l'être que nous sommes, si modeste soit le jugement que nous portons sur nous-mêmes, comparé à ce que sont et ce que valent les autres, détient une certaine valeur. Cette valeur, c'est l'être aimé qui nous la confère, lui qui incarne toute valeur potentielle. Aucun de nous n'imagine être le plus beau ni le plus intelligent du monde. Aucune de nos qualités mesurées à l'échelle du monde ne nous rend préférables aux autres. Face à n'importe quel autre critère de valeur reconnu, ce que nous sommes reste toujours une bien pauvre chose. Pourtant, nous aimons, nous nous apprécions, car nous ressentons, au plus profond de nous-mêmes, qu'il existe en nous une valeur, une unicité irremplaçable. Dans l'amour naissant, cette unicité est inconnue et reconnue. Cette unicité reconnue. Dans l'amour naissant, cette unicité est reconnue. L'être aimé en nous aimant, en nous aimant, aime cette unicité particulière qui est la nôtre. Même quand il nous demande de modifier notre comportement, il reconnaît notre unicité et le changement. Qu'il souhaite n'est qu'une nouvelle éclosion de cette unicité, une nouvelle floraison, un passage à l'acte de la puissance virtuelle. De même que nous trouvons dans la personne aimée un signe particulier, le pli de sa bouche, son odeur ou son parfum, le galbe de son sein, la courbe de ses cuisses, ses mains, sa façon de regarder, un certain vêtement, les objets qu'elle aime, les livres qu'elle lit. De même, l'autre trouve en nous quelque chose qui symbolise tout ce qu'il y a de plus beau. Et cela nous rend heureux. Si la personne aimée apprécie également d'autres activités, voyager ou rester chez elle, contempler ou parler, nous cherchons à aimer ce qu'elle aime, à le partager avec elle. La jalousie interrompt ce processus, l'inverse, et le projette à l'extérieur. Est jaloux celui qui s'aperçoit à tort ou à raison, pour l'instant, cela importe peu, que la personne aimée trouve en quelqu'un d'autre une qualité semblable à celle que lui-même trouve dans la personne aimée. Un détail ou un geste, une habileté ou une disposition. Il m'amuse, il sait me rendre gai, il est beau, il est jeune, ou bien il est intelligent. Dans la jalousie, nous découvrons donc que la personne que nous aimons est attirée, charmée par un don que nous n'avons pas, et que quelqu'un d'autre possède. Nous ne sommes jamais jaloux d'une chose, d'un animal, ou d'une profession, mais seulement d'une autre personne. D'une autre personne qui, à nos yeux, détient quelque chose qui exerce une fascination irrésistible sur l'être que nous aimons. Un attrait irrésistible, analogue à celui que l'autre exerce sur nous, et que nous, si l'autre nous aimait totalement, exercerions sur lui. Nous découvrons dans la jalousie que l'être, que l'aimer, pour réaliser ses désirs, dépend de quelque chose que notre possède et que nous non. Que l'autre et pas nous détient une qualité à laquelle l'aimer